BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, merci d'être là, bon week-end et merci aussi d'être fidèle. Vous le savez, chaque fin de semaine à ce rendez-vous qu'on vous propose à la fois sur BFM Business, sur la chaîne YouTube de BFM Tech et en audio, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous d'Actu Tech de la fin de semaine avec... cette semaine, dans De quoi je me mêle tout à l'heure, en deuxième partie, un invité exceptionnel puisque je recevrai le directeur général de Bouygues Télécom. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Bouygues fête ses 30 ans, vous vous rendez compte ? Bouygues Télécom a 30 ans à l'époque, téléphone GSM, petite antenne, autonomie de 18 minutes. Aujourd'hui, on a des iPhones qui nous permettent de faire plein de choses incroyables. On reviendra sur les 30 ans donc de l'évolution de cet opérateur télécom important en France. Et puis, on évoquera aussi, bien évidemment, l'actualité brûlante, hein, le rachat d'SFR qui avance à grands pas, malgré tout. Un grand merci d'être là. Le hashtag DQJMM, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter, pour la première partie de ce De quoi je me mêle, avec cette semaine, Pierre Fontaine qui est là. Salut Pierre.
Salut.
Rédacteur en chef adjoint du site BFM Tech et Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut François, salut Pierre, bonjour tout le monde.
Voilà, journaliste que vous pouvez retrouver dans Good Morning Business, sur BFM Business, mais aussi sur RMC à la mi-journée. Alors, autant vous dire que nous allons nous concentrer quand même sur l'actualité de la semaine, c'est la WWDC d'Apple. Que vous avez pu suivre d'ailleurs sur BFM Business dans Tech & Co, puisque l'heure était plutôt favorable à la diffusion de notre émission, donc on a pu suivre quasiment en temps réel les annonces. Mais ce que je vous propose maintenant dans cette émission, bah, c'est de revenir sur, on va dire, les points importants et puis surtout les conséquences que ces innovations vont avoir eh bien, sur notre quotidien ou bah, justement qu'elles ne vont pas avoir sur notre quotidien, notamment nous, Européens. WWDC, qui commence là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un moment important que tu as dû traiter, évidemment, dans Good Morning Business,
bien sûr.
Anthony.
Ouais.
Déjà, pas mal de, on va dire, de signaux intéressants. Dernière keynote de Tim Cook.
Oui, il y a un côté un peu émouvant aussi
ouais,
dans cette
keynote. On sentait un peu ému.
Ouais, on sentait un peu ému. Alors, il a été sobre hein, quand même, mais
oui.
Il n'est pas très expansif non plus. Voilà. Et puis bon, je pense que ce n'est pas non plus le moment de peut-être verser une larme. Et puis en plus, c'est des trucs qui sont préenregistrés, donc c'est toujours... Mais en tout cas, oui, c'était la dernière keynote de Tim Cook en tant que PDG d'Apple, puisqu'on rappelle qu'à partir du mois de septembre, donc les keynotes iPhone en général, c'est plutôt début septembre ou mi-septembre, eh bien, ce sera à ce moment-là John Ternus qui aura pris le relais. Et donc, bah, pour le coup, c'était une forme de dernier salut. Alors, pas totalement, parce qu'on le rappelle que Tim Cook, il va rester dans l'entreprise. Hein. Il restera président, oui. Il aura encore un rôle, notamment de diplomate en chef.
Tout à fait, ouais. De lobbying et de...
Exactement, voilà pour discuter avec Donald Trump, pour gérer toutes les questions qui sont quand même assez compliquées sur le contexte géopolitique, etc. Alors que John Ternus, lui, se concentrera vraiment sur les produits et la vision. Mais c'est vrai qu'on le verra un petit peu moins. Il sera un petit peu plus dans l'ombre, Tim Cook. Donc, ouais, côté un petit peu émouvant pour cette keynote où et Apple devait... rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle notamment, c'était ça le gros enjeu. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Peut-être qu'on pourra parler d'autres sujets, mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce, donc on peut pas commencer par ça.
Évidemment.
Parce que vraiment, c'était finalement, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous raconter ? Est-ce qu'ils peuvent encore nous prouver quelque chose sur le volet de l'intelligence artificielle ? Et moi, si je dois résumer, après on va entrer dans le détail, mais le sentiment général que j'ai eu en sortant de cette keynote, c'était, c'est le même terme d'ailleurs en américain et en français, c'est déjà vu. Hein. C'est vraiment, j'ai eu l'impression de revivre un peu la WWDC 2024 quand ils nous avaient annoncé les progrès Apple Intelligence, la révolution de l'IA, le nouveau Siri, on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis en définitive, bah, on a attendu, on n'a rien vu vraiment venir, on a eu tous les retards, on pourra revenir dans le détail, on en a beaucoup parlé, mais en tout cas, des retards qui se sont accumulés, des problèmes peut-être aussi de compétences en interne, enfin il y a eu plein de choses. Et puis bah, là, ils nous repromettent qu'on va voir ce qu'on va voir avec toutes ces nouvelles fonctionnalités IA et notamment la nouvelle version de Siri. Bon là, ça semble quand même un peu plus réaliste et un peu plus proche de nous, ça va vraiment arriver dans les iPhones.
Pierre, c'est vrai qu'on attendait tout le monde au tournant et on attendait surtout Apple au tournant sur ce sujet.
Ouais.
Il fallait absolument qui reprennent un peu la main sur cette innovation que tout le monde déploie actuellement. C'est-à-dire que Apple ne pouvait pas avoir de message fort sur l'IA aujourd'hui.
Ils ont eu depuis très longtemps un message fort sur l'IA, quand on parlait de machine learning, etc. Et effectivement, depuis la révolution la révolution qui est arrivée avec ChatGPT, en fait.
Pas celle de 1789.
2022, donc, beaucoup plus récente. Effectivement, on sentait qu'ils ne savaient pas trop où aller. Ils ont fait des partenariats avec OpenAI, pas forcément très révolutionnaire et concluant. Et là, en fait, ils s'étaient effectivement pris les pieds dans le tapis en 2024. Et cette fois-ci, ils sont revenus, mais ils l'ont fait d'une manière très appelienne et avec une certaine manière, on peut dire, avec une certaine modestie, parce qu'ils se sont alliés avec un acteur majeur de l'IA, Google. Donc, c'est assez difficile de dire Apple, Google, mais ils sont ennemis. Bon, c'est plus compliqué que ça dans le business, on le sait, bien sûr.
Ils ont plein de deals ensemble.
Mais voilà, ne serait-ce que pour le moteur de recherche par défaut dans Safari, il y en a plein d'autres. Et là, ils ont passé un deal très intéressant où, en fait, ils ont réussi à négocier la possibilité d'utiliser le savoir-faire technologique, le fonds technologique Gemini, donc l'assistant, l'intelligence artificielle de Google, pour ensuite le distiller, et j'utilise ce mot sciemment, parce que en fait, c'est le mot qu'on utilise en IA. En fait, ils ont utilisé les modèles Gemini de Google pour instruire, former leur propre modèle ensuite, pour distiller, c'est le terme, distiller le savoir, les compétences des modèles, de modèles beaucoup plus larges, pour créer leur... pour constituer leur modèle de fondation.
Ouais, pour qu'on comprenne bien, c'est un peu comme si c'était un cerveau vierge, dénué d'informations. Ça, c'est Google. Et en fait, toute l'intelligence a été rajoutée par Apple, finalement.
En fait, c'est l'IA de Google a servi de professeur, d'une certaine manière, au modèle de fondation d'Apple. Donc, il y a bien des modèles de fondation d'Apple qui seront utilisés, alors, notamment en mode local sur les iPhones pour les tâches, j'allais dire entre guillemets les plus faciles,
pour
réécrire du texte, résumer, enfin les choses qu'on demande à l'intelligence artificielle au quotidien. Et pour les tâches un peu plus complexes qui vont demander plus, plus de tokens et plus de complexité, eh bien à ce moment-là, on va passer sur le cloud de Google.
Sur le cloud. Oui, voilà. c'est des serveurs de Google, mais gérés par Apple.
Voilà, c'est ça que c'est
logiciel Apple, ça c'est très important. C'est ça. Parce qu'on reste dans le cloud sécurisé d'Apple qu'ils avaient introduit en 2024. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a toujours cette promesse, qui est d'ailleurs une des raisons de leur retard d'une certaine manière dans l'IA, c'est qu'il y a toujours cette promesse de « on préserve votre vie privée, vos données, on ne peut pas les consulter ». Grosso modo, la promesse d'Apple de la vie privée by design est toujours là, quoi.
Bon, sachant que là, on en parle et je pense que ça intéresse évidemment ceux qui nous écoutent, les gens technophiles auront en tête qu'effectivement, l'IA d'Apple s'appuie sur le fond technologique, comme tu dis, Google, c'est une très bonne expression, je trouve. Mais en réalité, 90% des gens n'en auront aucune idée au quotidien. C'est-à-dire que vous utiliserez Siri dans votre téléphone, vous ne saurez pas si ça va sur le cloud de Google, si on a utilisé Gemini pour l'inférence ou pour l'entraînement. À la fin, vous vous en fichez un petit peu. C'est l'utilisation au quotidien. Et c'est ça aussi qu'ils ont montré. Ils ont montré, en gros, alors si on doit entrer un petit peu dans le détail, la nouvelle version de Siri, parce que c'était quand même le gros morceau.
Siri AI,
alors qui sera en gros intégré, comme tu le dis, distillé un peu partout dans le téléphone et qui aura aussi une application dédiée et qui, alors, sera à la fois un assistant vocal remanié. Donc ça, c'était une mise à jour nécessaire, évidemment. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une discussion en vrai langage naturel, se reprendre, bafouiller, discuter comme on est en train de discuter là et être compris instantanément. Et puis aussi, et ça, c'est quand même la force d'Apple, c'est l'intégration dans le téléphone avec tout ce qu'il y a de très personnel et de très personnalisable dans le téléphone, c'est-à-dire le fait que Siri va pouvoir aller piocher dans mon agenda, dans mes messages, dans mes photos, pour pouvoir personnaliser totalement les réponses qu'on va me donner. Et ça, ça va être quand même extrêmement intéressant. Ça, je pense que c'est une des forces d'Apple. Alors, certains diront, et ils auront raison, que Google le fait déjà avec Personal Assistant. C'est exactement le même principe en réalité. Et là, du coup, il y a une forme de remise à niveau de la part d'Apple. Ça va être intéressant pour les utilisateurs.
Ouais, et puis, il faut quand même signaler qu'on est passé à une autre génération, en fait, d'assistants vocaux. Depuis que ChatGPT est en vocal, on a découvert, en fait, un univers incroyable de discussions qu'on peut avoir avec une IA, ce qui n'était pas possible avec Siri, ce qui n'était pas possible avec Alexa, avec Google Home. On voit que tout le monde se met à niveau. Apple n'avait pas le choix, finalement. Il devait absolument être à ce niveau-là, parce que Siri devenait presque un boulet, finalement. Enfin, le Siri ancienne génération.
Ça faisait vraiment old school, pour le coup.
Voilà.
Ouais, t'as raison. Et alors, c'est un peu le malaise que crée cette WWDC, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression, tu sais, à chaque fois qu'ils faisaient une démonstration, en nous disant « Incroyable, regardez ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle !» Et on disait Bah oui, on sait en fait, parce que ça fait ça deux ans qu'on voit des démonstrations comme ça, et que voilà, OpenAI fait les mêmes, et que Gemini fait les mêmes, et ça fonctionne très très bien, c'est génial.
Ils n'ont pas été trop ostentatoires,
non.
Ils ont été quand même assez...
Je me moque un peu, mais ils sont obligés de vendre
assez
un peu.
Assez humbles.
Ils vendent un peu leur sauce quand même, tu
oui,
vois, ils disent, regardez,
sûr,
ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et ils disent, bah oui, oui, c'est sûr, bah, c'est bien que vous puissiez le faire, mais on peut déjà le faire ailleurs depuis un certain temps.
Mais c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'en fait, ils ont... utiliser des outils de Google, mais ils ont tout refait eux-mêmes. Parce que, par exemple, pour quand on pose une question à Siri, on pourrait dire, ah bah, il va faire comme Gemini, il va aller chercher dans le Knowledge Graph de Google, il va aller chercher dans les données de Google. Non, en fait, ils ont construit leur propre base de données d'information. Et en fait, Apple a pris un savoir-faire, une technologie, pour en fait, servir de fondation à ses propres fondations. Enfin, pour... distiller ses fondations et créer ses fondations. Et c'est ça qui c'est hyper important, vraiment hyper important, parce que c'est effectivement, ils n'avaient pas cette capacité en interne à rattraper le train, et en fait, ils ont utilisé le train de Google pour, on peut l'espérer, est-ce qu'ils ont rattrapé le retard ou est-ce qu'ils sont juste à niveau à un instant T, mais en tout cas pour revenir dans la course, mais toujours avec leur approche. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont insisté là-dessus. D'ailleurs, le message, c'est on ne veut pas faire un énième assistant vocal ChatGPT-like, on veut faire un truc qui soit vraiment utile, et effectivement, qui est la vie privée comme ligne de fonctionnement, avec le plus possible de consultation d'informations en local.
Est-ce qu'on peut donner des exemples de cette IA ? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez abstrait tout ça.
Ouais,
je pense
sûr.
Qu'il faut vraiment dire ce qui n'était pas possible de faire avant et ce qu'on va pouvoir faire. Alors, quand je dis vous pouvoir faire aux États-Unis, parce qu'on reviendra aussi sur un sujet qui est quand même assez embêtant, voire enquiquinant, voire très enquiquinant, c'est l'absence de ce service en Europe, mais on en reparlera. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Siri AI ?
Alors, écoute, ce que je disais, en fait, du fait que ce soit intégré dans le téléphone et que ça va pouvoir prendre en compte toutes les informations qu'il y a dedans, un exemple concret qui a été donné pendant la conf, c'est je suis en train de discuter avec un ami d'un concert, par exemple, d'un artiste qui me plaît beaucoup, et en fait, l'IA va se mettre un peu en mode agent, c'est-à-dire en mode proactif. Elle va, par exemple, analyser et déterminer quand est-ce que le chanteur en question est en concert à côté de chez moi. Elle va me mettre dans l'agenda une note de rappel pour quand les places de concert seront mises en vente. Comme ça, c'est vrai, hop, je vais pouvoir prendre les places. Et puis, elle va me proposer un trajet pour aller à la salle de concert en passant par chez mon ami, tu vois. Enfin, elle va en tout cas prendre en compte ce que je lui raconte et être très proactive, en fait, dans la façon dont elle va agir. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que j'ai trouvé intéressant, c'est un cas d'usage auquel je n'avais pas pensé. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose avec ChatGPT. C'était l'addition au restaurant. L'addition au restaurant, c'est pour éviter le sketch de Muriel Robin, hein, qu'on connaît tous. Tu vois, machin, il a pris une salade et tout, et le vin au verre ou à la gorgée. Tu vois, c'est compliqué. Et donc, du coup, là, c'est tu prends en photo l'addition du restaurant. Et Siri va analyser l'addition. Alors, tu peux parler. Là, tu peux dire, François, il a pris juste une salade. Donc, il va juste payer sa salade. Et puis, moi, c'est mon anniversaire. Alors, je vais prendre en charge les apéros. Donc, voilà. Elle va analyser ça. Elle va le diviser. Elle va envoyer via Apple Cash une demande à tous les convives. Et tu peux payer instantanément. Voilà, c'est pas... incroyable,
ouais, c'est pas mal quand même.
C'est malin, je trouve ça pas mal, tu vois.
Ça facilite la vie au quotidien.
Exactement. Et une troisième fonctionnalité que j'ai repérée, que je trouvais intéressante, alors c'est sur l'IA embarquée dans l'appareil photo cette fois-ci. Alors on a souvent les trucs, les gommes magiques, on a vu ça 25 fois. Là, ils ont ajouté un truc, alors qu'ils appellent le Spatial Reframing. En gros, c'est la possibilité de changer l'angle de vue d'une photo après qu'elle a été prise. Donc en gros, même sur des anciennes photos, tu peux choisir en fait un angle de vue différent et tu vas
donc
avoir
ça recrée en fait.
Il faut juste préciser, on parle à la fois de Siri AI et d'Apple Intelligence.
C'est deux choses différentes.
Siri AI, on n'aura pas droit et on en parlera.
Boosted avec Gemini.
Et Apple Intelligence, ça, on y aura droit. Donc ça, il faut bien pondérer les deux choses. Mais effectivement, ils sont inspirés du savoir-faire qu'ils ont développé pour leur casque Vision Pro, avec les photos qu'on prend avec l'iPhone et qui sont visibles en 3D. Et franchement, ça c'est bluffant. Alors bien sûr, on ne peut pas dire « Ah, j'ai pris quelqu'un de face, bah, je vais plutôt le photographier derrière. » Non, ça ne marche pas, c'est un petit peu trop. Mais en revanche, on peut dire « Ouais, il regarde un petit peu à droite, donc j'aimerais bien décaler le plan pour avoir le visage face caméra, enfin le regard face caméra.
Après, moi, je me méfie de toutes ces fonctionnalités qui sont très sympas sur des slides, mais après qu'on n'utilise pas. Enfin, je ne sais pas, Google avait lancé son truc où, tu sais, quand on fait une photo de groupe, on a tous le sourire, on est tous...
Que tes amis sont parfaits, regarde tous la caméra.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais ça, c'est le problème. Moi, je n'ai pas d'amis parfaits. Hein.
Non, mais c'est clair.
Ouais,
c'est
mais est-ce que tu penses à utiliser la fonctionnalité, c'est ça?
Non, mais c'est ça.
Tu n'as pas tort là-dessus.
C'est plus une preuve technologique.
Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, après, ça va nous éloigner du sujet, mais sur ces photos trafiquées par l'IA, moi, ça me pose toujours un problème. C'est pas un vrai souvenir.
Non,
si c'est j'ai pris la photo comme ça et qu'elle a un petit défaut, elle a le petit défaut.
Ouais,
aussi.
Si tout le monde sourit, ça fait un peu Westworld.
Voilà,
quoi,
c'est ça. Si tu vois, et en fait, ok, ça fait bien. Alors, si tu dois envoyer une photo parfaite pour, je sais pas, pour un truc promotionnel, ok, très très bien. Mais pour des photos qui sont des souvenirs, ta mémoire externalisée dans le téléphone, moi, changer l'angle de la photo, ça me pose un problème, en fait.
Oui, c'est parce que c'est plus le moment.
C'est plus le moment.
Non, c'est plus le moment.
C'est ça.
J'aime bien faire la comparaison avec Alexa Plus parce qu'il y a pas mal de similitudes, je trouve, entre les deux, notamment tout ce qui est IoT, parce que la maison connectée sera gérée aussi avec Siri AI, de manière plus fluide, avec des phrases plus complexes qu'on pourra donner par rapport à aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourra aussi, par exemple, commander un Uber, réserver un resto, tous ces trucs que Alexa Plus, on en parlait d'ailleurs il y a quelques temps de cela dans De quoi je mêle, met en avant, en fait, avec des partenariats, avec The Fork, etc. C'est prévu, ça aussi ?
En fait, l'objectif, c'est de... Et même plus qu'Amazon, une des forces d'Apple, c'est son Apple Store, et donc les applications qui sont dedans. Et on sait que les applications, ce n'est pas juste des trucs qu'on télécharge, c'est des usages, en fait. Donc, bien sûr que c'est prévu d'enrichir les usages, d'intégrer ces usages-là à Siri AI pour pouvoir, au quotidien, se faciliter la vie, automatiser des choses, faire en sorte que la vie soit plus simplifiée. Et d'ailleurs, alors c'est de l'Apple Intelligence, c'est pas du Siri AI. Moi, je ne sais pas si vous utilisez Raccourci sur iOS. Donc, c'est alors normalement, c'est pour faciliter la programmation de tâches récurrentes. Et là, souvent, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu casse-pied. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut. On n'arrive pas à enchaîner les suites d'actions. Et là, maintenant, on pourra le faire grâce à Apple Intelligence et dire moi, j'ai besoin que chaque fois que je pars du bureau, tu préviennes ma femme que j'arrive dans 35 minutes parce que je vais prendre tel trajet, etc. etc. Et ça sera on n'a plus besoin de faire sa petite programmation.
Ouais. C'est-à-dire que là, c'est la révolution, c'est la voix, en fait. Voilà. On parle à une machine qui comprend ce qu'on dit.
Et ça, c'est quand même assez. Enfin, il y a des trucs où moi, je trouve que c'est un des apports. Alors, c'est peut-être mon côté geek, mais ce côté. Ne plus avoir à se prendre le crâne sur la bonne petite tournure, le bon enchaînement d'actions pour faire quelque chose qui est une routine qui sera automatisée tous les jours, par exemple, c'est assez génial.
Mais après, pour répondre à ta question, je pense que oui, effectivement, ça n'a pas été annoncé là, mais évidemment qu'on va aller vers de l'IA full agentique où tu pourras effectivement dire juste ramène-moi chez moi et puis l'IA comprendra que tu veux commander un VTC et le payera pour toi. Enfin, le payera pour toi. Tu payeras, mais
ça
ce serait vraiment génial.
Ça serait top. C'est pour moi, ça me fait plaisir.
Non, mais j'y pense parce qu'on a appris, en plus, que OpenAI avait signé un partenariat avec Visa, donc pour s'intégrer, avec le système de paiement. Ouais. Donc là, on voit bien que l'IA agentique, on arrive vraiment au bout de la logique où vraiment, tu n'auras plus qu'à ordonner quelque chose pour que ça se réalise dans la vraie vie. Évidemment, il n'est pas question qu'Apple ne fasse pas partie de cette aventure. Donc, on va y arriver, même si ça n'a pas été annoncé là immédiatement.
Après, il y a des questions de briques technologiques, des questions aussi de sécurité, pour ne pas justement que tu arrives et tu dis « tu parles à ton ami, je vais prendre un Uber, ça va être super. » Et puis, il te commande un Uber, et il te défalque de 25 euros sur ta... Voilà, alors que tu parlais juste à un ami que tu allais en prendre.
C'est ça. Commande un Uber sur l'iPhone de François.
Pour moi,
bien sûr, avec plaisir.
Non, c'est un taxi pour Tobruk, un Uber pour Tobruk pour mettre un petit peu les trucs à la mode.
C'est
et tu te retrouves avec 1500 euros de.
Oui, bien sûr. Non, moi, j'ai toujours rêvé de commander une Lamborghini sur le compte d'Anthony Morel.
Voilà, tu vois, exactement.
Ça pourrait être pas mal.
Ce sera automatique.
Mais c'est même pas rigolo parce qu'il a même pas d'iPhone. Ça marcherait même pas.
Exactement.
En fait.
Exactement. Il y aura sûrement sur Gemini aussi.
Oui, ça va arriver.
Tout ça pour dire que oui, effectivement, on tend vers ça et c'est la logique des choses et c'est un. Enfin, c'est inconcevable. Ce serait inconcevable que Apple ne fasse pas ça à terme. Mais là, en fait, il y avait déjà une. Il ne faut pas oublier que c'était la WWDC, donc c'est la conférence destinée aux développeurs. Donc, grosso modo, regardez, maintenant, vous avez sous les yeux le terrain de jeu qu'on a constitué.
C'est-à-dire
pour
qu'après,
vous, la base.
Moi, je suis développeur de, je sais pas moi, Booking.com, par exemple, de l'appli Booking. Je vais pouvoir insérer une API. Il va se connecter en fait à Apple Intelligence ou à Siri AI pour en fait augmenter l'appli en fait. C'est
oui,
ça l'idée.
Pour lui fournir un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain d'usage.
Sachant que les développeurs d'applications, enfin voilà, Booking, Uber, etc., vont avoir une incitation qui est énorme en fait sur ces sujets-là, parce que là, en fait, ce qui est rendu possible avec Alexa, tu avais raison, le parallèle est excellent parce que c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire. L'obsession d'Amazon quand ils ont commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, c'était ce qu'ils appellent le voice shopping, c'est-à-dire l'idée que tu puisses finalement acheter quasiment en respirant, quoi. Acheter en parlant. Tu oublies que tu es en train de réaliser un acte d'achat.
Supprimer la friction.
Mais c'est ça, supprimer la friction pour que ce soit le plus facile possible de venir débiter ton compte en banque. C'est ça, en fait, tout l'enjeu pour Amazon, parce que eux, c'est du e-commerce quand même avant tout, mais ça va être aussi vrai pour Apple. Et donc, évidemment, que pour Uber, que pour Booking, que pour tous les supermarchés, ça va être extrêmement intéressant de développer ces agents IA qui vont permettre de rendre d'une simplicité déconcertante l'acte d'achat. Donc, ça va être un vrai enjeu de ce point de vue-là.
Alors, on va rentrer dans le dur, là, parce qu'on reviendra juste après cette polémique de l'absence de Siri AI en Europe tout de suite. Et puis après, on reviendra sur d'autres annonces, parce qu'il y en a eu d'autres, notamment sur les enfants, le contrôle parental. Il y a eu quelque chose aussi.
Golden Gate aussi.
Oui, exactement.
Pardon, c'est ce que tu...
Non, tu as raison. Mais j'aimerais que, pour terminer Siri AI, qu'on revienne sur le gros problème du moment. Ouais. C'est que tout ce dont on vient de parler... Eh bien, Apple l'a dit clairement, en fait, de manière ouverte pendant la keynote, mais aussi en discutant avec des journalistes européens.
Et en publiant un communiqué juste après la fin de la conférence.
Voilà. Tout ce dont on parle, en tout cas Siri AI, ne sera pas disponible en Europe.
Tout à fait. Et il n'y a pas de date de disponibilité.
Il n'y a pas de date de disponibilité, avec en plus un message assez dur envers la réglementation européenne, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, c'est vous. Un peu comme ça.
En tout cas, Apple a une position qui était, on la sentait très remontée. Alors, à la fois très, très posée, parce que Apple reste Apple, mais très remontée, où ils ont dit, grosso modo, nous, on a fait des propositions technologiques pour essayer de se plier aux obligations, aux exigences du DMA, donc le règlement sur le marché numérique. On n'a pas eu de réponse, on n'a pas de retour qui nous permette d'avancer. Vu qu'on ne peut pas mettre en place les propositions qu'on a faites qui permettraient à nos yeux de maintenir à la fois la sécurité des utilisateurs et la sécurité de nos systèmes, on le déploie pas, on le déploie pas dans l'Union européenne. Le discours d'Apple est toujours celui-ci. Hein, c'est pour la sécurité, c'est pas pour préserver nos intérêts ou notre jardin clos, c'est pour la sécurité des utilisateurs. Et de facto, c'est en partie vrai. Là, en fait, grosso modo, ce qui était demandé par la Commission européenne, c'était de faire en sorte que d'autres intelligences artificielles puissent se greffer sur les plateformes intelligentes qu'ont annoncé Apple. Et donc Apple a travaillé très en amont avec la Commission européenne sur ce sujet, et visiblement, ils ne sont pas arrivés à quelque chose de satisfaisant, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de réponse. Ça, c'était la position d'Apple. Le lendemain, il y a eu la position de porte-parole de la Commission européenne, c'est quand même important de le ramener, qui a dit « Nous, on n'a eu aucune proposition, donc vous pouvez déployer Siri AI en Europe, il n'y a pas de problème, mais nous, on n'a pas reçu de proposition, donc... On ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, qui dit le vrai, qui dit le faux, il y a clairement une bataille de pression de position. Mmh. Clairement, ça fait maintenant des mois, depuis 2024, depuis l'arrivée de DMA, que Apple est un petit peu vent debout contre ça, contre la position européenne qui, en fait, cherche à protéger le marché européen et à faire en sorte qu'il puisse y avoir des champions européens qui émergent, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas une dépendance total aux champions américains. Et puis, effectivement, de côté, il y a les champions américains qui disent « Ouais, mais vous prenez... » Alors, je n'aime pas cette formulation, mais cette formule, mais vous prenez en otage les utilisateurs parce qu'ils n'ont pas la même expérience que partout dans le monde, excepté la Chine où il n'y a rien du tout. Mais vous n'avez pas... Les Européens n'ont pas une expérience optimale. Et c'est une réalité, du coup, quand on ne sort pas Siri AI.
Anthony.
C'est compliqué parce qu'effectivement, en plus, il y en a un qui dit... Il y en a un qui ment dans les deux, forcément, parce qu'il y en a un, si Apple dit on a proposé un truc, mais l'Europe n'en veut pas, et l'Europe dit on n'a rien reçu de la part d'Apple, bon, il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité.
Il y en a un qui n'a pas regardé ses mails.
Voilà, il y en a un qui n'a pas lu ses mails, visiblement. Si on part du principe que Apple vraiment voudrait déployer en Europe, mais ne peut pas à cause du DMA, moi je trouve toujours ça très dommageable, parce que j'ai l'impression plus générale, si on sort de ce cas-là particulier, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'une fonctionnalité ou deux fonctionnalités qui sont bloquées à cause de la réglementation européenne et dont les utilisateurs européens sont privés. Et j'ai l'impression que petit à petit, on est un peu en train de se transformer en tiers-monde numérique où, en gros, le monde entier dispose des dernières fonctionnalités et puis nous, ça arrive en général 6 mois, 1 an après, pour une raison un peu obscure en réalité, parce que, enfin, je sais pas, sur ce DMA, en réalité, qu'est-ce que ça change ? L'idée, c'était effectivement de faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres IA sur l'iPhone.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, si j'ai bien compris, Siri et AI arrivent en Europe, il faut qu'Apple propose une solution technique pour que, au lieu de me pluguer à Siri et à Gemini, je puisse me pluguer à ChatGPT.
Mais moi, ça, j'ai du mal.
Je puisse me pluguer à Claude ou même à DeepSeek ou Mistral.
Oui, mais ça, moi, j'ai du mal à en comprendre l'esprit. C'est-à-dire qu'Apple, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont leur univers propre, ils sortent leur téléphone, personne n'a à leur imposer de mettre
si tu veux,
une IA concurrente. Tu vois,
on peut faire l'analogie avec le navigateur, si tu veux, de ton iPhone. Quand tu installes pour la première fois ton iPhone, on te pose la question de savoir quel navigateur tu veux.
Pour moi, il y a une petite.
Tu vois, ça peut être Google. Ça peut être DuckDuckGo, tu peux choisir ce que
tu veux. Pour moi, il y a une petite différence dans le sens où le navigateur, ça avait été mis en place justement parce qu'il y avait un abus de position dominante qui était absolument flagrant à l'époque et que du coup, il fallait qu'il y ait une forme d'équilibre. Là, Apple, ils partent pour le coup avec un coup de retard sur leur intelligence. Personne ne l'utilise aujourd'hui. Mais... Donc, tout le monde est sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude. Donc, pourquoi est-ce qu'ils devraient en plus proposer sur les iPhones, en plus de leur IA, les IA des concurrents
Le point intéressant à ce
qu'ils proposent déjà en plus, les applis.
Via les applis, bien sûr, oui, parce que personne n'a interdiction d'installer ChatGPT sur son
iPhone. Le point
iPhone.
Intéressant à soulever, c'est que là, la Commission européenne, elle ne s'intéresse pas à la position d'Apple sur le marché de l'IA, parce que Siri AI, on l'aura sur des produits Apple en Europe, sur les Mac, par exemple.
Oui, parce que c'est pas un gatekeeper.
Parce qu'ils n'ont pas franchi un seuil d'utilisateur. Ouais. C'est en fait, on n'aura pas Siri AI sur les iPhones et sur les iPads, qui sont en position... d'avoir suffisamment d'utilisateurs et suffisamment dominants sur le marché pour que l'Europe dise « Ouais, mais alors si vous proposez que votre solution, les utilisateurs, il y aura une sorte de monopole ou en tout cas d'absence de choix, donc il faut que vous ouvriez la porte. » Mais ce que je trouve intéressant, il y a mon côté geek pur qui est complètement d'accord avec toi, au sens où je me dis « Bah ouais, mais moi de l'innovation, je veux avoir la dernière innovation, je veux jouer avec, c'est quand même chouette. » Et bien sûr que je suis pour ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi, et rappelons-le, et c'est d'autant plus flagrant depuis l'arrivée de Donald Trump, qui est quand même un peu une girouette géopolitique, qui change d'avis comme de chemise, qui menace ses alliés et qui menace même ses alliés de ne plus accéder à ces technologies.
Et qui met en porte-à-faux aussi toutes ces boîtes américaines pour lesquelles ils travaillent.
Qui compliquent leur tâche. Il y a une question derrière de souveraineté numérique. Alors, effectivement, pour l'instant, l'Europe est complètement à la ramasse. Elle n'a pas la puissance de feu des États-Unis, mais quand on écoute des gens comme Arthur Mensch, donc qui est quand même le patron, un des trois cofondateurs et le patron de Mistral, et qui dit il nous reste grosso modo 2 ans sur l'IA pour ne pas se ramasser et ne pas être vassalisé, on peut se dire que mettre une sorte de rempart qui force à l'ouverture sur ce genre de plateforme, c'est pas déconnant parce que ça peut aider des acteurs comme Mistral à proposer des solutions ou à d'autres sociétés à proposer.
En gros, c'est un peu comme l'App Store, si tu veux. L'App Store, je ne sais pas combien de dizaines de personnes en Europe ont installé des App Store alternatifs à celui d'Apple, tu vois. Mm-hmm. Mais au moins, il y a le choix. C'est ça le truc.
Mais si
après,
tu veux le choix,
libre à toi de prendre Siri AI parce que finalement, tu es OK avec ça intellectuellement. Et tu te dis, je suis vassalisé, moi je veux rentrer dans l'univers Apple, c'est pas grave. Mais en revanche, si tu as la possibilité d'avoir Mistral comme IA parce que tu trouves ça important, tu veux tester, parce que peut-être que.
Mais comme tu le disais, tu peux l'avoir via l'App Store, Mistral, je vois pas où est le problème.
Oui, mais là, parce qu'en fait, c'est typiquement intégré dans la téléphone.
Ah oui, mais bon,
tu peux pas lancer Mistral par la voix, en fait. Sur ton téléphone.
Oui, mais c'est un iPhone, quoi. Enfin, moi, je sais pas, ça me paraît fou, quoi. Les mecs, ils font leur téléphone avec leur système. C'est quand même incroyable qu'on veuille leur imposer
En fait, on leur impose. Donc, oui, effectivement, on leur impose. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, Apple avait proposé une solution on va dire, de
ils ont
transition.
Une sorte de plateforme de,
c'est-à-dire
de confiance.
Que, voilà, parce que Apple sentait évidemment que ça n'est pas passé, cette histoire-là. C'est intéressant d'ailleurs.
Mais ils réagissent
amont en se disant on va se faire retoquer, on va trouver une solution.
Ça, bien sûr.
Et la solution qu'ils ont trouvée, alors c'est vraiment, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est une espèce d'API qui serait entre l'IA qu'on choisirait, et Siri AI, qui ferait un peu la jonction.
Oui,
et en fait, visiblement, l'Europe aurait refusé net cette solution, parce que pour elle, elle n'était pas totale. Et en fait, Apple réagit en disant, nous, on ne veut pas ouvrir à des IA qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on ne maîtrise pas, tout l'écosystème personnel d'un iPhone, parce que c'est ça aussi le problème.
Et c'est
ce qu'Apple met en avant. Et franchement, là, je trouve qu'ils sont plutôt pertinents.
Ouais, c'est sur la question de la sécurité, c'est évident.
Ils ont accès, en fait, Siri AI a accès à toute ta vie numérique. Tes SMS, tes mails, ta localisation, etc., tes photos. Tu vois, donc c'est vrai que donner ça, en fait, à la première IA venue, ça peut poser problème.
Mais bien sûr.
Même si tu l'avertis, si tu dis attention, vous allez ouvrir la boîte de Pandore.
Et je te dis ça, moi, je suis vraiment. Je suis
c'est
pour
compliqué ce sujet.
Pour l'innovation
sujet
française,
compliqué.
Pour l'innovation européenne, j'ai envie qu'on crée des champions, qu'on soit dans la course et tout. Je suis vraiment pro-innovation française, mais pour moi, ça se jouera sur celui qui a la meilleure technologie, pas sur celui auquel on aura imposé puisse être présent dans les iPhones.
Là, en l'occurrence, je suis complètement d'accord. Enfin, si on prend juste sur le niveau IA, Mistral est excellent et de l'aveu même de son CTO que François a interviewé il n'y a pas si longtemps, est pas très loin, voire aux portes, juste derrière les géants américains. Néanmoins, si tu compliques leur intégration dans les outils qui sont utilisés au quotidien pour que les gens l'utilisent vraiment, t'as beau avoir le second best, le presque meilleur, ou peut-être même une solution meilleure, elle ne sera pas utilisée parce qu'elle n'est pas intégrée. On sait comment ça fonctionne. On a bien vu au fil des années pourquoi Internet Explorer s'était taillé une part de marché incroyable dans les navigateurs web, parce qu'il était installé là, tu cliquais et c'était le navigateur par défaut. On a vu au fil du temps que les utilisateurs, et c'est normal, sont paresseux. Et moi le premier, je ne juge pas, mais c'est normal. Et donc en fait, là, la position de l'Europe, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est embêtant parce que ça freine l'arrivée de l'innovation, d'innovation intégrée.
Ouais, et puis on
mais,
se retrouve avec
mais,
un téléphone
mais
un peu...
c'est aussi légitime de dire votre téléphone, votre plateforme, elle est en situation dominante ou très forte sur nos marchés.
Ouais.
Donc, on veut que vous l'ouvriez, que vous permettiez à d'autres acteurs de prendre leur essor.
Mais ça donne
c'est
toujours...
C'est compliqué. Hein,
non, mais je suis d'accord. Hein. Mais c'est nuancé. Je surjoue un peu aussi le truc.
Non, mais t'as raison.
Mais si tu veux... Parce que c'est vraiment... Plus généralement, j'ai vraiment l'impression que l'Europe, c'est ça, quoi. On est obligé de réguler et de réguler pour pouvoir dire, mais nous, on existe aussi. On voudrait bien être dans le téléphone quand même, parce que nous aussi, on a des innovations. Et en fait...
Vous savez ce qui m'ennuie?
J'aimerais mieux qu'on soit les meilleurs, tout simplement.
M'ennuie dans cette histoire-là, c'est qu'on décide à ma place. C'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que finalement, je suis assez grand pour signer, on va dire, des contrats avec Meta, Facebook, etc., que je ne lis pas, où je dis OK pour accepter des conditions d'utilisation. Pourquoi là, on ne nous informerait pas sur, quitte à ce que Apple soit obligé de faire une campagne de communication conjointe en disant, aujourd'hui, vous avez votre iPhone, à vous de choisir ce que vous voulez faire.
Ouais.
Mais au moins, on choisit ce qu'on doit faire.
Ouais,
là, c'est en fait une... Quelqu'un prend cette décision à notre place.
Le truc, c'est qu'en faisant ça, est-ce que tu ouvres la possibilité à d'autres acteurs de se développer ? La Commission européenne, elle ne dit pas... On veut pas de la solution d'Apple, c'est pas ce qu'elle dit. Enfin, d'ailleurs, elle a même dit le contraire par la voix de son porte-parole. Mais elle dit, en revanche, on veut qu'il y ait la possibilité d'une alternative pour que justement tu puisses faire ton choix éclairé ensuite. Et c'est ça, en fait, c'est ça le point problématique. Et après, il faudra voir, vu qu'il y a quand même deux communications, comme on le disait tout à l'heure,
Apple dit
on a proposé plein de choses, nous, on n'a rien reçu. À mon avis, la vérité est peut-être plutôt à mi-chemin, ou peut-être plus du côté d'Apple que de l'Union européenne, ça, je ne sais pas. Mais effectivement,
pour que tu puisses faire le choix... d'accusé de réception sur des choses aussi importantes
Bien sûr qu'il y a eu des communications, ça paraît invraisemblable qu'il n'y en ait pas eu.
C'est encore une pub pour Apple. Bon, je supprime, je mets la corbeille. Ah bah non, c'était le mail de proposition de BMA.
C'est qui ce Tim Cook?
Tim Cook. Et j'ai vidé ma boîte.
Ouais, c'est vraiment.
J'ai vidé ma corbeille.
Non, mais enfin, en fait, il y a des grands enjeux et effectivement, peut-être que il y a aussi plusieurs questions. Hein. Je pense qu'il y a une vraie question aussi de compétences technologiques. Je sais pas. Enfin, il y a des experts qui travaillent pour la Commission européenne, donc je m'inquiète. Enfin. Je sais que, par exemple, sur tout ce qui est radiofréquence, ils ont des experts hyper pointus qui viennent des différents pays de l'Union européenne. Donc, j'imagine assez difficilement qu'ils n'aient pas d'experts européens sur la question. Ce n'est pas juste des bureaucrates. Ça, il faut quand même un peu tordre le bras à cette idée-là. Il y a forcément des experts en IA qui ont été consultés. Alors après, est-ce que les solutions proposées par Apple n'étaient pas du tout satisfaisantes, étaient un peu satisfaisantes? Et en fait, c'est le, peut-être ouais. Que l'histoire nous le dira dans quelques années. Mais en tout cas, la réalité, c'est que Siri AI et pas Apple Intelligence, c'est différent, ne sera pas disponible dans l'Union européenne.
Et on n'a même pas de date. On ne sait même pas quand ça va arriver.
Aucune date n'a été communiquée.
Ouais, peut-être qu'ils en ont une en tête, parce que je pense aussi du point de vue d'Apple,
oui,
c'est aussi
y a
un moyen de...
Il y a pas mal de bluff.
Oui, bien sûr,
de
mettre la pression du côté de l'utilisateur en disant, regardez l'utilisateur, vous voyez comment vous brime, c'est pas notre faute, faites pression sur vos législateurs, sur l'Union européenne. Donc il y a aussi ce petit jeu qu'on avait déjà vu d'ailleurs avec d'autres innovations.
Mais je trouve ça plutôt malsain. Je trouve ça plutôt malsain parce que finalement, nous qui sommes en otage, pouvons rien faire. Il n'y a rien à faire.
Voilà.
Tu es obligé d'attendre. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu mets en porte-à-faux une institution qui est l'Union européenne. Je trouve qu'il y a vraiment. C'est pas le bon message.
Et puis, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon moment.
C'est pas le bon moment non plus.
Je comprends qu'Apple utilise cet outil de communication. Mais je trouve que, à mes yeux, ça les dessert un peu.
Bon, on voulait parler du contrôle parental, on voulait parler de Golden Gate. On n'a pas le temps, les amis.
Mais
parce qu'en fait, c'est un sujet tellement important et tellement riche que il nous fallait, à mon avis, au moins tout ce temps pour pouvoir vous expliquer notre point de vue, qui n'est pas d'ailleurs figé.
C'est
pas définitif.
Puis dites-nous ce que vous en pensez, d'ailleurs.
C'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Dans les commentaires de YouTube, etc. Ça sera hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Tiens, on a le petit module bonus, peut-être qu'on pourra revenir sur Golden Gate et sur le contrôle parental pour les enfants.
Alors on reparle de l'Europe et de...
Non, please, non. Mais en tout cas, espérons que tout ça avance très vite. Vous restez avec nous. Autre sujet très intéressant dans un instant, on va fêter les 30 ans de Bouygues Télécom avec son directeur général Benoît Torlotin qui nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle, et on fête un anniversaire, et un anniversaire important, c'est les 30 ans de Bouygues Télécom. Et oui, Bouygues Télécom a 30 ans, et on en parle avec son directeur général, Benoît Torlotin, qui est avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour François Sorel.
Merci d'être là. Plein de choses à raconter, parce que l'actualité, évidemment, des 30 ans pour un opérateur, c'est important. Et puis aussi, on est dans une actualité télécom assez riche, avec le rachat des SFR qui avance, on va en parler. Les 30 ans de Bouygues, à l'époque, vous n'étiez pas chez Bouygues, vous êtes arrivé 3 ans plus tard, je crois, en 99, mais vous étiez client Bouygues Télécom. Ce qui était quand même assez, assez fort, parce que Bouygues Télécom arrivait de nulle part, finalement. Itineris, SFR, on était dans cet écosystème-là, et Bouygues avait tout à prouver à l'époque.
Absolument, 30 ans, c'est un bel âge.
C'est vrai.
Et quand on regarde le chemin parcouru, je pense que réellement, les collaborateurs de Bouygues Télécom, ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'on a accompli. Et en 96, effectivement, je n'étais pas encore chez Bouygues Télécom, mais j'étais un des premiers clients Bouygues Télécom, puisque j'avais été séduit par, déjà, une innovation de Bouygues Télécom, et ensuite, on en a fait beaucoup d'autres. Bouygues Télécom, en fait, dès le départ, a eu une sorte d'intuition fondatrice qu'on a ensuite tout le temps tenue. C'était de rendre accessible au plus grand nombre les usages numériques qui changent la vie des gens. Et dès 1996, en fait, on a inventé le forfait. Alors, ça paraît aujourd'hui évidemment bien installé, mais le forfait, c'est Bouygues Télécom qui l'a inventé en 1996.
Auparavant, qu'il n'y avait pas de forfait
avant. La téléphonie mobile, c'était réservé à quelques initiés. C'était des valises de 4 kilos dans les voitures des cadres supérieurs. Donc, on a inventé le forfait. Ensuite, quelques années plus tard, on a inventé le forfait illimité. Millennium.
Le fameux soirée week-end. Incroyable, ce truc-là.
Illimité d'abord uniquement vers les mobiles Bouygues Télécom avec Millennium et illimité vers tous les opérateurs avec Néo en 2006. On a inventé le premier Internet mobile un peu structuré avec e-mode en 2002. Et c'était la première fois que vous pouviez avoir les emails sur votre mobile. La première fois que vous aviez un mobile avec un écran couleur qui prenait des photos et qui les envoyait, c'était eMode avec Bouygues Telecom en 2002.
Oui, c'était une technologie japonaise.
C'était avec NTT Docomo, absolument, ouais,
exactement.
Un partenariat.
C'était très intéressant. Ça n'a pas eu un énorme succès après, finalement. Enfin, il y a un autre standard.
Ah, ça a vraiment été la rampe de lancement de l'Internet mobile.
La rampe de lancement de l'Internet mobile, finalement, qui s'est tournée vers d'autres technologies
et
après.
Ensuite, bien sûr, il y a eu les applications sur l'iPhone, etc. Et on a fait la même chose quand on est venu sur le marché de l'Internet, du fixe, des box. On a été les premiers en France à lancer l'offre Quadruple Play. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Une offre qui associe la box et le mobile. C'était Bouygues Telecom, le premier, avec Ideo en 2009. Et puis, on a continué sur la partie Internet. On a été les premiers à avoir une box Android. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'applications sur votre box. Les premiers à avoir une box 4G ou 5G. C'est-à-dire qu'on a utilisé notre performance du réseau mobile pour apporter aussi l'Internet chez vous. Les premiers à lancer un Wi-Fi 7 certifié. C'est à l'image derrière vous. Les premiers encore récemment à amener l'IA. On en reparlera peut-être. L'IA sur la box télé, puisqu'on a une box télé. On est le seul aujourd'hui à avoir une box télé dopé à l'IA qui permet de faire des tas de choses super sympas. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui est marrant dans un anniversaire de 30 ans, c'est de se dire plein de choses ont changé depuis 4 générations de mobiles, 2G, 3G, 4G, 5G, 4, 5 générations de vie. Beaucoup de choses ont changé, mais qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, c'est cette envie constante de rendre accessible au plus grand nombre les usages numériques qui changent la vie des gens. Et c'est ça qui nous drive et qui va continuer à nous driver pour les années à venir. Avec en plus cette patte humaine, ce que les clients nous disent, et on en est très contents, c'est que chez Bouygues Telecom, on a cette signature d'une relation humaine particulière. Écoute des clients, apporter aux clients des vraies solutions dans le domaine du grand public ou dans le domaine du B2B de l'entreprise, qui est un autre grand domaine pour nous, pour l'avenir. Donc c'est un petit peu ça, c'est démocratiser et rendre accessible et avoir toujours cette fibre humaine très, très présente, parce que les technologies, c'est compliqué quand même. Ça va très, très vite. Vous en êtes un spécialiste. On essaie d'en être aussi, mais...
C'est vrai qu'on est parfois un peu dépassé par tout ça, mais...
De plus en plus vite. Donc, les clients, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les accompagne. Parce que pour rendre accessible au plus grand nombre, il faut aussi accompagner et expliquer. Bon, ça, c'est un petit peu la Bouygues Telecom touche qu'on essaie d'avoir depuis 30 ans et puis encore à l'avenir.
Alors bon, il y a des moments importants. C'est vrai que vous le disiez, vous avez été l'inventeur du forfait. Après les forfaits illimités, alors chez des clients Bouygues, mais après c'est passé tous opérateurs. On se souvient de tout ça. Pour les plus anciens d'entre nous, ça a été des vraies révolutions. Et puis il y a Free Mobile qui est arrivé, qui a été quand même aussi un séisme pour tous les opérateurs. Sincèrement, ça n'a pas été un peu violent, l'arrivée de Free Mobile, parce que ça a rebattu les cartes, en fait. Ça a fait baisser les prix. Il y a eu pas mal de secousses, non, avec l'arrivée de Free Mobile, pour un opérateur télécom, comme vous, mais aussi pour SFR et pour Orange.
Ah oui, ça a été un événement de marché assez structurant. On va dire que Free Mobile a bénéficié de conditions de lancement qui lui ont permis, effectivement, d'avoir des prix plus bas que ce qui était la référence précédente. Donc, ça a amené Bouygues Telecom à se transformer, à transformer sa structure d'offres. D'ailleurs, ça nous a amené à nous repositionner sur certains segments. Avant Free Mobile, nous avions lancé...
Avec la création de BNU.
Avant le lancement de Free Mobile, nous avions lancé BNU en juillet 2011. La première offre mobile sans engagement et sans mobile, vendue uniquement sur le digital.
Qui se voulait être low cost, même si ce n'est pas un mot qui est très joli, en tout cas abordable.
En tout cas, entièrement sur le digital. Et j'avais eu plaisir à l'époque d'ailleurs de m'occuper des équipes qui avaient mis BNU en ligne et quelque part créé ce segment-là. Donc effectivement, ça a bouleversé le marché. Mais quand on regarde quelque part l'histoire de Bouygues Telecom depuis, ben, on a quand même eu un très bon parcours. Et aussi parce qu'on n'a jamais renoncé, même si le marché est compliqué, à quelque chose de constant. Il faut être très persévérant et constant dans le télécom. Et notamment de continuer à investir pour avoir des réseaux et des produits qui soient hyper performants. Même dans les moments les plus compliqués, l'entreprise Bouygues Telecom, soutenue par son actionnaire, n'a jamais renoncé aux investissements qu'on doit faire pour être les premiers sur le réseau 4G. Même après Free Mobile, on était les premiers à lancer un réseau 4G national.
Oui, je me souviens, c'était en 2013, vous étiez les premiers à appuyer sur le bouton d'ailleurs. Ça avait été hyper médiatisé, on en avait parlé d'ailleurs dans De quoi je me mêle à l'époque.
Absolument. Ouais. Et ensuite, continuer à avoir un réseau mobile qui se développe sur la 4G, sur la 5G, investir dans les box, investir dans le réseau fibre. Ce que l'on a fait pour aujourd'hui réellement être là où on en est, c'est-à-dire un acteur très performant, reconnu pour sa qualité de service, reconnu pour ses innovations encore, et parce qu'on a été constant, persévérant dans ce qui fait finalement ce qu'un opérateur télécom est performant dans la durée. On est un groupe, on est une entreprise qui résonne dans la durée, et ça donne vraiment des moyens pour investir, pour être persévérant, et pour être toujours là, au rendez-vous, dans les grands moments du marché.
Alors, on a parlé des 30 ans qui sont passés. Est-ce qu'on arrive à se projeter, quand on est directeur général de Bouygues Télécom, sur les années qui viennent ? On ne parle pas encore du rachat d'SFR, on va y revenir dans quelques instants, mais au-delà de ça, est-ce que la technologie, est-ce que vous voyez déjà des prémices d'innovation technologique fortes qui vont arriver chez Bouygues Télécom ?
Alors oui, on doit, quand on est directeur général d'un opérateur télécom, se projeter 5, 10 ans plus loin, parce qu'on est sur des cycles longs, des cycles d'investissement qui sont très longs.
Et vous avez la visibilité de ce qui va se passer dans 10 ans, par exemple ?
En partie. Pas okay. totalement, mais il faut mais néanmoins essayer ça. De construire les socles qui vont permettre finalement de s'adapter. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas. L'infrastructure de connectivité pour un pays, pour nos clients, particuliers et entreprises, c'est quand même un élément essentiel de l'activité de toutes les entreprises et de tout à chacun. Ça, c'est aujourd'hui évidemment le cas. Et ça va continuer à l'être. C'est-à-dire que cette infrastructure de connectivité, l'infrastructure numérique du pays, elle doit continuer à être performante, elle va devoir absorber les nouvelles technologies, elle va devoir être souveraine, elle va devoir être résiliente. Ce qu'on a devant nous, c'est effectivement des perspectives d'investissement renforcées dans nos infrastructures numériques pour toujours bien servir le pays, les consommateurs ou les entreprises. Prenez l'exemple de l'IA d'une façon générale, qui va impacter toutes les activités de toutes les entreprises ou de tous les consommateurs. Cette IA, elle va nécessiter que nos réseaux s'adapte finalement pour être extrêmement performant et délivrer les services d'IA. Ça, on y est déjà. Et on se dit déjà comment on va faire en sorte que nos réseaux délivrent ce qu'il faut en termes de connectivité pour l'IA ou délivrent des capacités de calcul. On le voit bien, c'est une infrastructure essentielle. C'est comme l'eau, l'électricité ou autre chose. Et pour des consommateurs, pour des entreprises et pour un pays finalement, un peu dans la compétition internationale, avoir une infrastructure numérique de bon niveau.
Mais ça veut dire quoi,
maîtriser
des data centers,
et souveraine,
c'est quoi
important.
En fait c'est ça
c'est déjà d'amener une connectivité qui permette réellement de faire en sorte que l'IA donne à plein ses services.
D'accord. Donc les tuyaux, là.
Les tuyaux et la sécurité des tuyaux, la latence sur les tuyaux, les débits pas seulement descendants, mais les débits montants.
Oui. Parce
qu'avec de l'IA dans votre main ou dans la main de millions de personnes,
sont plus
la partie montante va être importante. Donc déjà, c'est renforcer... adapter les réseaux télécoms à ce que l'IA va demander. Et puis, c'est également, effectivement, d'amener des couches complémentaires de sécurité. C'est extrêmement important. Des couches complémentaires potentiellement de calcul, de capacité de calcul non seulement centrale, mais sur le territoire à plusieurs endroits pour avoir une latence adaptée. Donc, réellement, c'est vers cela que l'on va. Et les technologies vont nourrir cela. Oui, 6G, oui, des nouvelles générations de Wi-Fi. Mais on doit surtout penser écosystème télécom. Importance de la performance, de la sécurité, de la souveraineté de nos réseaux télécoms pour effectivement, quelque part, dans la structure géopolitique qu'on est en train de voir, avoir une Europe et une France qui soient
solides par rapport à ces sujets-là.
Et donc des entreprises qui, elles-mêmes, soient fortes parce qu'elles profitent, elles tirent parti de cette infrastructure numérique pour elles-mêmes être performantes dans leur digitalisation.
Alors, Benoît Orlotin, vous fêtez vos 30 ans et j'ai l'impression que votre plus beau cadeau d'anniversaire, c'est quand même ce rachat de SFR.
Un superbe cadeau qu'on n'achète pas, un cadeau qu'on nous offre.
Qui vous coûte un peu d'argent, parce que rappelons que la transaction globale est à plus de 20 milliards d'euros. Mais c'est vous qui en êtes le principal bénéficiaire, hein, puisque la répartition du coût serait sur 42% pour Bouygues, 31% pour Free Iliad et 25% pour Orange. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce rachat, et qu'est-ce que ça va apporter à Bouygues Télécom ?
Alors,
si ça se fait, hein, bien évidemment,
voilà.
Parce qu'on est au début de la transaction. Là, l'offre de rachat a été acceptée par Altice. Maintenant, il y a évidemment encore beaucoup d'obstacles, mais admettons que ça passe.
Alors voilà, effectivement, on a franchi une étape importante avec ce Memorandum of Understanding, c'est cet accord avec Altice. Il reste effectivement, on va enclencher maintenant une série de démarches pour obtenir des autorisations auprès des instances compétentes, notamment instances de concurrence ou ARCEP. Mais déjà, c'est quelque chose d'extrêmement structurant pour l'écosystème télécom français. Je reviens juste un instant là-dessus pour dire que ça va réellement permettre aux acteurs français d'accroître leurs investissements dans des domaines importants d'infrastructures numériques pour l'avenir. C'est réellement important parce qu'on est aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est sur un marché désormais mature. C'est-à-dire que le marché global n'a plus vraiment beaucoup de croissance. Or, si on veut poursuivre des investissements de bonne nature pour le pays, on doit retrouver des capacités d'investissement. Donc ça, c'est un peu le raisonnement économique global.
Et ces capacités d'investissement, vous allez les récupérer parce qu'il y aura un opérateur en moins. Donc des abonnés en plus arriveront sur les trois opérateurs, ce qui fait qu'il y aura plus d'argent qui va rentrer et voilà. Donc plus de capacité d'investir.
Donc, c'est nous ça. Allons, côté Bouygues Télécom, c'est vrai pour les autres assureurs, pouvoir effectivement investir davantage au service de la performance de nos réseaux, la résilience et la souveraineté. Comme nous avons également, dans ce que nous achetons, des fréquences, ça c'est extrêmement important parce qu'on va également pouvoir émettre sur nos réseaux existants davantage de fréquences. Et donc ça, c'est immédiatement davantage de qualité de service, pas seulement pour les clients SFR que l'on va acheter, mais également pour les clients Bouygues Télécom existants. Donc l'ensemble des clients existants vont bénéficier d'un surcroît de qualité de service extrêmement important. Et donc, ça fait de Bouygues Télécom un très solide numéro 2 sur le marché des télécoms en France. Ça, c'est extrêmement important.
Mais vous allez récupérer quel type de... Vous allez récupérer des abonnés d'SFR? Vous allez récupérer du réseau de SFR, c'est ça?
Alors,
Parce que je crois que Free Mobile récupère Red.
Nous allons pouvoir effectivement récupérer, comme vous dites, chez Bouygues Télécom, un peu plus de 6 millions de clients grand public,
d'accord,
mobile et fixe. L'ensemble de l'activité B2B de SFR, donc c'est-à-dire les clients, les activités B2B de SFR. Mmh. Donc là, je vous dis, globalement, ça fait du Bouygues Télécom un solide numéro 2 sur le marché français des télécoms. Et sur le B2B en particulier, ça nous donne effectivement un Bouygues Télécom qui va changer d'échelle totalement et qui va être réellement un numéro 2 sur le marché, et toujours avec cet esprit challenger. Mmh. Un des éléments importants que l'on aura, c'est nous allons accueillir ses clients, accueillir des collaborateurs, accueillir des actifs réseau dans un Bouygues Télécom qui va garder ce qui fait de nous ce que l'on est aujourd'hui au bout de 30 ans, c'est-à-dire un acteur innovant, un acteur qui reste dans un esprit de challenger et qui a une attention particulière à la qualité de service et à notre relation humaine. C'est ça l'enjeu pour nous, et devenir un très beau numéro 2 sur le marché des télécoms en gardant finalement l'ADN qui nous a porté depuis 30 ans.
Pour les abonnés SFR, comment ça va se passer? Admettons que tous les obstacles, vous franchissiez tous les obstacles en temps et en heure, qu'est-ce qui va se passer et quand?
Alors, ce que l'on travaille, c'est la façon de pouvoir faire en sorte que les abonnés SFR deviennent abonnés Bouygues Télécom de manière extrêmement fluide et transparente pour eux. Il n'y aura pas de changement de leurs conditions tarifaires, pas de changement de leur offre. Et même, côté Bouygues Télécom, on a l'expérience de migration de clients mobiles avec les clients de Crédit Mutuel Mobile, les clients de La Poste Mobile.
Oui, des MVNO que vous avez acquis.
Des MVNO qu'on a acquis et on a transféré. On a des technologies particulières pour que ces gens-là changent de réseau, changent d'opérateur, sans même changer la carte SIM. C'est des technologies.
Donc, du jour au lendemain, je passerai, au lieu d'avoir SFR sur mon téléphone, j'aurai Bouygues Télécom.
De manière extrêmement fluide, la veille, vous êtes SFR, le lendemain, vous rallumez votre mobile, vous êtes Bouygues Télécom.
Ça pourrait être quand, ça, à votre avis?
Par contre, le quand, c'est une fois, ça démarrera une fois que toutes les autorisations auront pu être obtenues, si bien sûr elles sont obtenues. C'est à partir de fin 2027, début 2028, on pense. Donc déjà, ce n'est pas demain.
D'accord.
Il reste un temps d'instruction par les autorités de concurrence, notamment. Et à partir de là, on aura ces opérations de migration qui dureront au maximum 30 mois, dans ce qu'on imagine. Mais
donc, c'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, je suis abonné à SFR, j'écoute de quoi je me mail. En fait, il n'y a pas de stress à avoir, finalement.
Je vais
garder mon abonnement. Un jour ou l'autre, je serai contacté pour m'informer que je vais passer ou chez Bouygues ou chez Free, d'ailleurs, ou peut-être même chez Orange, parce que tout ça va être partagé par les trois opérateurs. Et puis après, libre à moi d'accepter ou pas l'offre, finalement. Je pourrai aller voir ailleurs, si je veux.
Absolument. Déjà, comme vous le dites, il ne se passe rien avant fin 27. Puis ensuite, vous serez contacté, vous aurez une opération extrêmement fluide.
D'accord.
Ça, chez le nouvel opérateur, en gardant vos conditions tarifaires, en gardant votre SIM sur la partie mobile, réellement de manière la plus fluide et transparente. Et puis, à tout moment, un client d'un opérateur, il garde, bien sûr, le choix possible
d'aller voir
des changements. Mais réellement, l'enjeu, c'est de le faire de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, et puis pouvoir accueillir ses clients SFR sur notre réseau, et donc de les faire bénéficier de notre qualité de service, déjà aujourd'hui, plutôt reconnu, parce que vous savez, il y a des observatoires indépendants qui regardent la qualité des réseaux, NPERF par exemple en France, et Bouygues Télécom est aujourd'hui le numéro 1 sur la partie à la fois Wi-Fi Internet et sur la partie Internet mobile en 2025. Et on va encore accroître cette capacité, cette qualité, puisqu'on va obtenir des fréquences supplémentaires de SFR. Donc on va avoir quelque chose de très fluide.
La question que tout le monde se pose, passer de 4 opérateurs à 3, est-ce que ça va faire augmenter les prix?
Alors, vous savez,
à la fois du mobile et le fixe aussi. parce que SFR était assez agressif en termes de tarifs sur le mobile, mais aussi sur les offres box.
La France est, depuis des années, un pays où les tarifs sont extrêmement compétitifs. Quand vous comparez les tarifs français aux tarifs européens, on est réellement le pays sur lequel les tarifs mobiles et fixes sont parmi les plus compétitifs d'Europe. Ça va se poursuivre. Vous savez, je vous ai indiqué, le marché est désormais mature.
Non mais
le marché n'a plus trop de croissance.
Je vous coupe,
juste,
Benoît, parce que...
Dans un marché mature, c'est encore plus une raison pour laquelle les acteurs vont être effectivement dans une très forte concurrence pour finalement continuer à croître. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que la concurrence va se poursuivre. On a trois acteurs qui vont continuer à vouloir croître eux-mêmes. Dans un marché mature, c'est réellement déclencheur de compétition sans aucun problème. Donc, l'autorité de concurrence va observer ça de manière très attentive. Évidemment, le rôle de l'autorité de concurrence, d'accord, est de faire en sorte qu'une opération de ce genre-là est réellement qu'il n'y ait pas d'impact sur la partie tarifaire. Donc, quelque part, nous, les réflexions que l'on a sont comment on investit davantage, comment on tire parti de synergies réseau.
D'accord.
L'ensemble de l'équation économique de l'opération, elle est fondée sur des synergies de coûts, des synergies réseau, mais pas du tout sur des hausses tarifaires.
Bon, on verra bien, en tout cas, comment ça va se passer tout ça. Dernière question, là je mets ma casquette un peu BFM Business. Il y a une vraie inquiétude concernant, on va dire, l'aspect social de cette transaction, avec des salariés d'SFR qui sont dans une situation, on peut l'imaginer, assez compliquée. J'imagine que vous avez réfléchi, avec les deux autres opérateurs, le devenir de ces salariés. Est-ce que vous avez déjà des infos à donner, peut-être aux salariés d'SFR qui sont en train d'écouter De quoi je me mêle et qui nous regardent ?
Bien sûr, le volet social est un volet important de cette opération. Vous savez, les trois acheteurs sont trois grands groupes industriels français, Bouygues, Orange, Iliad, qui évidemment regardent les aspects sociaux avec beaucoup d'attention. Et donc évidemment, on va démarrer dans les semaines à venir une série d'échanges, discussions avec les organisations syndicales des trois acheteurs et du vendeur. Et dès à présent, on a une attention particulière à ce qui va se passer. Alors, avec un temps, un délai, rien ne se passe avant fin 27. Donc, et ensuite, on a 30 mois au moins de migration des clients, voire 5 ans globalement d'éléments d'actifs à transférer. Donc,
ça veut dire qu'on est dans du temps long. Digéré dans 5 ans,
on, c'est voilà, ça on est dans du temps long. Donc, on va gérer ça. On a déjà indiqué aujourd'hui qu'on garantit l'emploi des collaborateurs de SFR jusqu'au début 2029, que ce soit par l'emploi qu'ils ont aujourd'hui ou par des offres d'emploi qu'on leur fera chez les acheteurs concernés. On va démarrer les discussions plus précises. Et donc, c'est réellement quelque chose qu'on regarde avec attention.
Mais les trois opérateurs peuvent encaisser en fait toute la masse salariale d'un quatrième opérateur, à votre avis ?
Mais ce que je veux évoquer, c'est qu'il y a un besoin fort des collaborateurs SFR dans l'entité SFR qui va continuer, puisque même après le closing, l'entité SFR va continuer à exister. Il y a énormément d'activités, d'opérations à mener au sein des équipes SFR actuelles qui vont se poursuivre pendant 30 mois, voire 5 ans, dans différents domaines, pour effectivement transférer des clients, transférer des actifs réseau et continuer à opérer le réseau pendant un temps.
Donc ce temps long, en fait, pour rassurer les salariés pendant 5 ans. Finalement, les salariés d'SFR n'ont pas de soucis, de questions particulières à se poser, c'est ça ?
Alors, au fur et à mesure des 5 ans, finalement, on va établir avec nos partenaires sociaux la façon dont ça va se passer pour ces collaborateurs SFR. Mais en tout cas, il y aura une activité au sein de SFR. Le réseau SFR doit continuer à fonctionner et bien fonctionner tant que les clients n'ont pas tous été migrés. Donc, c'est une chronologie, c'est un planning, c'est plusieurs étapes sans doute, et on va l'élaborer en concertation avec les partenaires syndicaux, entre les trois acheteurs et les vendeurs, pour qu'effectivement ça se passe de la manière la plus fluide possible également.
Merci beaucoup Benoît Torlotin pour toutes ces précisions qui sont importantes, à la fois remonter le temps avec les 30 ans de Bouygues et puis se projeter vers l'avenir avec ce rachat d'SFR qui est quand même un gros morceau, hein. Industriellement c'est pas anodin.
C'est une belle étape.
Merci beaucoup Benoît Torlotin, directeur général de Bouygues Télécom, pour terminer ce De quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM, à la fois sur YouTube mais aussi sur X. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et vous qui êtes avec nous en audio, quelques minutes en plus sur le podcast qui vous attendent avec le retour de Pierre Fontaine et d'Anthony Morel. Merci d'être là en tous les cas chaque semaine. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.